le magazine des Nations Unies.
Bienvenue à vous dans ce magazine des Nations Unies. La coopération entre la MONUSCO et les FARDC est excellente dans les opérations contre les FRPI en Ituri. Déclaration de Martin Kobler après un séjour dans cette partie du pays. Mais le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC estime que les pressions militaires contre les FRPI devraient s'accompagner de la restauration de l'autorité de l'État et des activités économiques dans la région. C'est la grande actualité de ce magazine. Doter la RDC d'une politique nationale de l'aménagement du territoire, c'est l'objectif d'un atelier organisé par le gouvernement du 24 au 25 juin dernier avec l'appui du CNUD et de l'USAID. Et cela passe par un processus de réforme dans ce secteur. Les quatre axes visés dans cette réforme avec le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat dans cette édition. Coup de projecteur sur l'unité d'appui à la réforme du système de sécurité, RSS, au sein de la MONUSCO. Quel est son mandat, ses composantes et aussi quels sont les défis de cette unité de la MONUSCO? Tout l'éclairage avec le chef de la composante, question transversale, notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, était en visite de quelques jours en Ituri et au sud Irumu. Il en est revenu satisfait de la coopération entre la force onusienne et l'armée congolaise dans les pressions militaires exercées contre les FRPI. Martin Kobler a exprimé sa satisfaction devant les journalistes au cours de la conférence de presse du mercredi dernier à Kinshasa. Honoré Missenga Kalala était aussi là.
Deux jours passés à Bunia, Afeba et Bukilingi, des contacts avec les troupes de la MONUSCO, mais aussi avec la société civile et les populations de ces contrées. Au-delà des contacts, un constat, les opérations militaires conjointes lancées le 3 juin contre les FRPI sont les plus intensives et les plus performantes depuis l'anéantissement du M23. Kobler explique ce succès par l'excellence de la coopération entre les FRDC et la force de la MONUSCO. Coopération dans la planification des opérations et aussi coopération dans la gestion des renseignements obtenus notamment par l'action des drones de la force onusienne. Cependant, le chef de la MONUSCO insiste. Pour atteindre une paix durable dans la région, en plus des pressions militaires sur l'ennemi, deux autres conditions doivent suivre en parallèle, en commençant par ce qu'il appelle la restitution de l'autorité de l'État dans les zones reconquises. Martin Kobler.
On peut combattre contre les FRPI ou les autres groupes armés si on n'a pas la restitution de l'autorité de l'État, l'administration civile, les agences sécuritaires par là, alors ça ne va pas être couronné au final du succès. Pour vous donner un exemple, j'étais hier à Bukiringi. On a 64 000 habitants. 400 kilomètres carrés et on avait 4 policiers. Alors c'est un policier par 16 000. Et les chiffres normaux, c'est un policier pour 500. Si on a 4 policiers pour 64 000 habitants, c'est pas suffisant. C'est pas restitution de l'autorité de l'État. Ce que je veux dire, les opérations militaires sont très bien, mais il faut les compléter par la police qui doit être là, qui doit garantir la sécurité, conjointement avec les FRDC, l'administration civile aussi.
À cette condition, il faut ajouter la relance des activités économiques avec comme sous-bassement l'emploi des jeunes.
C'est aussi très important de créer l'emploi, parce que les jeunes gens doivent avoir du boulot. Et il faut coopérer avec Starec ici, avec l'équipe pays, avec nos programmes de stabilisation, alors d'avoir vraiment une situation où les jeunes gens qui sont ici voient, alors la paix vaut la peine et pas la guerre.
Le représentant du secrétaire général de l'ONU fait également part de ses visites la semaine avant, d'abord à Moscou pour des concertations avec le gouvernement russe sur la RDC, ensuite à Bruxelles, où le groupe international de contact a évoqué concernant la RDC la nécessité de redynamiser l'accord d'Addis Abeba dans tous ses volets. Et enfin, Martin Kobler annonce la tenue le 15 juillet prochain d'une réunion du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo. En prévision de cette séance à laquelle il ira prendre part, il devait se concerter à Kinshasa avec les diplomates autour des quatre sujets prioritaires, le programme DDR, les élections, la stabilisation et les réformes sécuritaires. Il explique pourquoi.
Il faut vraiment regagner le dynamisme maintenant parce que sans ces sujets, DDR, élections, programme de stabilisation et réforme secteur sécurité, on ne peut pas faire plus vite avec la stratégie de départ de la MONUSCO. Et nous voulons tous réduire notre dispositif de la force, mais pas laisser un pays fragile derrière nous ici.
La semaine qui s'achève a été aussi marquée par le lancement du processus de réforme de l'aménagement du territoire en RDC, atelier organisé par le gouvernement avec l'appui du PNUD et de l'USAID. Pendant 2 jours, soit du mercredi 24 au jeudi 25, les participants venus de toutes les provinces du pays ont réfléchi et amorcé le processus de réforme dans ce domaine. Jean-Pierre Elali Ikoko pour les détails.
Selon Omer Ngwake, ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, la politique nationale d'aménagement du territoire est le cadre de référence pour toutes les actions d'équipement de base et de gestion de l'espace national. Son élaboration passe par 4 axes stratégiques.
L'élaboration de la politique d'aménagement du territoire, l'élaboration de la loi cadre sur l'aménagement du territoire, la conception et l'élaboration des instruments au niveau national, provincial et local, plus précisément les schémas nationaux de l'aménagement du territoire, les plans provinciaux, les plans d'urbanisation et plans locaux de l'aménagement du territoire.
Pour sa part, Alfredo Teixeira, représentant résident à IDUPNUD en République démocratique du Congo, sollicite l'implication de tous les acteurs pour la réussite de cette réforme et réitère la disponibilité de son agence.
Le succès de la réforme de l'aménagement du territoire sera le résultat de ces efforts et de l'implication de tous les secteurs et de tous les acteurs concernés. Ceci exige qu'on aboutisse ensemble à des propositions consensuelles sur l'utilisation de l'espace et des ressources. Je terminerai mon propos en réitérant l'entière disponibilité du PNUD de continuer à soutenir ce processus ambitieux et stratégique pour l'avenir de la RDC.
Enfin, Madame la directrice de l'USAID en RDC, Dr Diana Poutman, trouve dans cet atelier une occasion pour planifier des actions concrètes pour la mise en œuvre de l'utilisation des terres.
J'encourage les participants à sortir d'ici avec un plan d'action qui décrit le rôle des institutions du pays et leurs partenaires.
Notons que la clôture des travaux a eu lieu jeudi dernier avec une panoplie de recommandations visant à mettre sur le rail le processus de réforme de l'aménagement du territoire.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La RDC accueille sur son territoire environ 240 000 réfugiés, alors que plus de 2 millions de ses ressortissants fuyant ça et là des affrontements armés sont des déplacés internes. Globalement, le monde compte près de 60 millions de personnes en situation de déplacement forcé, dont les apatrides. Nous revenons donc sur l'entretien que nous a accordé Céline Smith en marge de la dernière journée mondiale du réfugié. Céline Smith était alors en charge des relations extérieures et porte-parole du HCR RDC. Suivez encore son entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Céline Smith, bonjour.
Bonjour.
Comment le HCR définit-il le concept réfugié ?
Un réfugié est une personne qui est forcée de fuir son pays pour cause de guerre ou pour cause de persécution liée à sa race, ses origines, sa religion également. Donc un réfugié est une personne qui fuit son pays et qui traverse une frontière et qui cherche la protection, le refuge et la sécurité dans un autre pays.
On entend également parler du rapatrié. Le rapatrié, c'est qui ?
Un rapatrié est un réfugié qui est rentré chez lui. Donc, c'est-à-dire un réfugié, par exemple, congolais, qui était au Rwanda et qui a décidé de rentrer chez lui parce que la situation dans son pays, la RDC, était à nouveau stable. Donc, une fois rentré chez lui, le réfugié devient un rapatrié. Et bien sûr, ensuite, il devient à nouveau un citoyen qui vit dans son pays.
D'autres concepts sont également utilisés dans le cadre de la mission du HCR, apatride, demandeur d'asile et déplacé interne. Et comment comprendre aussi chacun de ces termes ? D'abord, apatride.
Un apatride est une personne qui n'a pas de nationalité. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas de pièce d'identité. Et pour cela, peut être discriminé, peut ne pas avoir accès à ses droits, c'est-à-dire voter, par exemple, ou parfois même, il n'a pas accès aux soins de santé, il n'a pas accès à l'éducation, puisqu'il n'est pas un citoyen du pays dans lequel il réside. Cela peut être causé par différentes choses. Parfois, l'apatridie est liée à la discrimination d'un groupe minoritaire qui ne se voit pas attribuer la nationalité dans un certain pays. Ou certaines personnes peuvent perdre aussi leur nationalité parce qu'ils ont fui leur pays, n'ont plus de documents d'identité de ce pays-là, mais ne sont pas des nationaux de pays dans lequel ils ont fui. Et donc là aussi, ils peuvent perdre leur nationalité et donc être discriminés pour cela et ne pas jouir de leurs droits.
Alors, un demandeur d'asile ?
Un demandeur d'asile est une personne qui a fui son pays pour des raisons de guerre ou conflit ou de persécution, qui arrive dans un autre pays et y demande l'asile dans ce pays. Par exemple, en RDC, il y a des demandeurs d'asile de pays voisins. Donc par exemple, il peut y avoir des demandeurs d'asile de la République du Congo qui arrivent en RDC. Une fois arrivés en RDC, ils se rapprochent des autorités congolaises pour présenter leur cas, présenter leurs problèmes et demander l'asile en RDC. Il y a une commission qui se réunit pour ensuite étudier les cas des demandeurs d'asile et statuer sur leur cas et décider s'ils sont ou non des réfugiés.
Revenons-en maintenant aux déplacés internes. C'est qui un déplacé interne ?
Un déplacé interne est une personne qui a été forcée de se déplacer dans son propre pays, mais qui n'a pas traversé une frontière. Donc un déplacé interne fuit aussi un conflit, ou alors parfois également une catastrophe naturelle, mais se réfugie dans une autre région, une autre ville de son pays, mais ne traverse pas une frontière, donc ne devient pas un réfugié.
Réfugié, rapatrié, apatride, demandeur d'asile, déplacé interne, le ASR s'occupe de tout ce monde.
Oui, le mandat du HCR, effectivement, est tout d'abord de protéger et d'assister les réfugiés, mais en collaboration et en appui aux États qui accueillent des réfugiés. Donc, par exemple, ici, en République démocratique du Congo, nous travaillons avec les autorités congolaises, et plus particulièrement le ministère de l'Intérieur et la Commission nationale pour les réfugiés. Nous travaillons en concertation avec eux pour assurer la protection des réfugiés et également leur assistance. Nous apportons également un appui aux autorités congolaises pour qu'elles puissent exercer leur devoir de protéger les réfugiés qui sont en RDC. En ce qui concerne le rapatriement, là encore, on travaille avec les pays qui accueillent les réfugiés, mais aussi les pays dans lesquels les réfugiés retournent, pour organiser ce qu'on appelle le rapatriement volontaire des réfugiés, donc permettre aux réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux parce que la paix est revenue dans leur pays de pouvoir rentrer chez eux. Les apatrides également relèvent du mandat du HCR, donc trouver des solutions pour lutter contre l'apatridie. Et finalement, pour les déplacés internes, le HCR est en charge d'un certain nombre de secteurs d'assistance aux déplacés internes, notamment la protection, mais également l'abri et la gestion des camps de déplacés internes.
Est-ce que vous avez des cas d'apatridie en RDC ?
Alors pour l'instant, ce que nous faisons en RDC pour lutter contre l'apatridie, c'est que nous sommes en contact avec les autorités pour les encourager à signer la convention de lutte contre l'apatridie.
Céline Smith, merci.
Plus de 12 000 cas de rougeole en 5 mois au Katanga, dont 186 décès. Une révélation de OCHA RDC contenue dans sa note d'information à la presse datée du 24 juin 2015. Plus de 12 000 cas de rougeole, cela représente une hausse de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. Cause de cette hausse, de nombreux enfants n'ont pas été vaccinés. Selon la source, la zone de santé de Malemba, en territoire de Malemba-Nkoulou, enregistre à elle seule plus de la moitié du nombre total de ces cas de rougeole. Restons dans le même volet sanito-humanitaire, cette fois au Maniema, où en revanche plus de 3700 enfants de 6 mois à 5 ans ont été guéris de la malnutrition, soit 95% du nombre qui était admis dans les centres nutritionnels. OCHA attribue cette performance à un programme intensif mis en œuvre par l'ONG internationale COPI, Coopération internationale, une ONG italienne. Enfin, un écolier congolais lauréat du concours international de dessin du PAM, Programme alimentaire mondial. Il s'appelle Sami Joseph Kimpibie, 12 ans, et élève de l'école primaire Kachengeneke dans le territoire de Pweto Katanga. L'enfant Kimpibie est parmi les 20 gagnants du concours du dessin international organisé par le PAM. C'est pour la première fois qu'un dessin de la République démocratique du Congo est sélectionné à ce concours.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'unité d'appui à la réforme du système de sécurité, RSS, au sein de la MONUSCO existe depuis quelques années. Quelle est sa mission ou son mandat? Quelles sont ses composantes et quel est le niveau de coopération avec les institutions congolaises comme la police, l'armée et la justice? Le magazine des Nations Unies reçoit ce dimanche Luis Moratinos, chef de la composante questions transversales de RSS. Il répond à toutes ces questions et à bien d'autres dans cet entretien avec Jean-Pierre Elali Coco.
Luis Moratinos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la composante questions transversales de l'unité d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Votre unité existe depuis 2000. Quel est son rôle ou sa mission, même son mandat au sein de la MONUSCO?
Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'unité pour la réforme du système de sécurité au sein de la MONUSCO. En effet, cette unité existe déjà depuis un certain nombre d'années. Le mandat qui nous a été conféré par le Conseil de sécurité a dicté un peu le rôle que cette unité a pu jouer au sein de la mission et aussi par rapport à l'appui que nous avons pu apporter au gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors le rôle que le mandat actuel par la résolution 2211 et aussi par la résolution 2151 qui porte sur la RSS comme sorte de directive pour toutes les missions de maintien de la paix aussi pour les missions politiques des Nations Unies, nous donne un mandat de coordination de bons offices et d'appui justement au processus qu'est la RSS.
Donc, vous travaillez en collaboration avec le gouvernement congolais.
Tout à fait.
Alors, la réforme de la sécurité, on en parle depuis plusieurs années en République démocratique du Congo, mais elle tarde à prendre ses marques.
Il ne faut pas comprendre donc la RSS comme d'un point de vue programmatique. La réforme du système de sécurité essaye justement d'apporter un appui au niveau institutionnel, au niveau des acteurs de sécurité dans leur ensemble. Et bien évidemment, dans un contexte comme le Congo, comme la RDC, c'est un processus qui demande d'avoir une vision à long terme. Bien évidemment, les conflits à l'Est n'ont pas aidé à mettre en place ces changements plus rapidement que nous l'aurions souhaité. Or, la RSS est un processus qui demande de réformer ou de transformer, de moderniser les institutions afin de les rendre professionnelles et de les rendre redevables et dans un cadre d'état de droit. Et ceci prend beaucoup plus de temps qu'une simple réforme en termes de formation et d'équipement.
À part les conflits à l'Est, est-ce qu'il y a d'autres pesanteurs qui ne vous ont pas permis aussi d'avancer?
Certaines pesanteurs que les acteurs bilatéraux déplorent toujours, depuis un certain nombre d'années, concernent plutôt l'engagement politique du gouvernement de la RDC. Un engagement qui, pour les acteurs bilatéraux, devrait se traduire, tout d'abord, par une réforme de la fonction publique. Pour justement, là, si on envisage, par exemple, la mise à la retraite d'une partie des fonctionnaires, donc fonctionnaires des agents de sécurité, mais aussi au niveau de tout ce qui est finances publiques. Le budget qui est alloué à la réforme du système de sécurité n'est certes pas suffisant. Si nous regardons la loi de finances 2015, ceci couvre essentiellement et malheureusement que les frais de fonctionnement, mais ne touche pas à tout le processus de réforme qui est si nécessaire en RDC.
Oui, dans ce processus de réforme, il y a quatre composantes, dont l'une est transversale. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement?
Alors, il est vrai que la RSS, dans son ensemble, et je vais essayer de peut-être d'utiliser une métaphore, je fais référence à cette histoire dans un village indien où six sages du village qui étaient nés aveugles, pour la première fois de leur vie, tout d'un coup, un jour, il y a tous les enfants qui se mettent à crier et qui appellent les sages pour qu'ils rejoignent la place du village, car il y a un éléphant qui s'est introduit au sein du village, et donc ils avaient bien entendu jamais vu un éléphant. Alors, vous savez bien que quelqu'un d'aveugle, pour reconnaître la personne ou la chose, il doit toucher pour essayer de voir les traits et d'essayer de se faire une sorte d'image de la personne ou de l'objet qu'il a en face. Donc lorsque l'un des sages touche la jambe de l'éléphant, ils disent non, c'est pas un éléphant, c'est un arbre, un tronc d'arbre. Le corps, il a dit non, c'est un mur, et ainsi de suite. L'oreille, ça c'est plutôt un éventail, la queue, c'est plutôt une corde, la trompe, c'est une forme d'un serpent. Alors tout ça pour dire que si on réunissait toutes les images que ces hommes sages avaient par le toucher, on pourrait avoir une vue d'ensemble et on pourrait voir l'éléphant dans sa totalité. Alors que s'il touchait uniquement, donc c'est vrai que ça pourrait prêter à confusion et on ne verrait pas l'éléphant, mais on verrait qu'une partie de l'éléphant. Donc la réforme du système de sécurité, il s'agit à peu près de la même chose. La réforme du système de sécurité, on ne peut pas la concevoir uniquement à travers le prisme de la réforme de l'armée, de la justice ou de la police, mais les questions transversales font partie aussi de cette réforme. Bien évidemment, il y a la question des droits de l'homme, de la protection de l'enfant, de la implication obligation que la société civile doit avoir et même le contrôle parlementaire doit jouer lorsque un processus de RSS est entamé. Et l'aspect genre, bien entendu, l'exemple de la police de proximité qui a été sous forme de pilotage grâce à l'appui de la coopération britannique, ça a été simple, c'était vraiment une approche RSS. Il s'agissait non seulement de former les policiers de formation de base, mais aussi travailler avec les parlementaires pour qu'ils contrôlent un peu la réforme de la police, à travailler avec la société civile pour qu'on puisse créer un partenariat entre les policiers et les citoyens congolais et congolaises qui, justement, devaient vivre avec ces policiers, surtout au niveau local et provincial. Ce que nous souhaitons et ce que souhaitent tous les acteurs bilatéraux, c'est d'appuyer une police ou des acteurs de sécurité qui respectent les droits de l'homme.
Il faut dire que dans ces processus de réforme de la sécurité, il y a beaucoup de défis et parmi ces défis, vous insistez sur la volonté politique nationale pour la mise en œuvre de la réforme de l'armée, de la police et même de la justice. Quel est à ces jours pour le niveau des coopérations avec les gouvernements dans quatre domaines que je viens de citer?
Le niveau de collaboration avec nos contreparties nationales, nous vivons un moment d'excellentes relations, que ce soit avec la police nationale congolaise, avec l'inspection générale de la PNC, que ce soit aussi avec cet élan qu'a donné le nouveau ministre de la Justice, notamment à travers les états généraux qu'il a organisés cette année. Au niveau pénitentiaire aussi, et au niveau des forces armées, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter un appui en termes de primo-formation au niveau de l'état-major des forces des FARDC sur le droit des conflits armés. Donc la collaboration est excellente, pas seulement uniquement entre la MONUSCO et le gouvernement, mais le plus important, que ce soit entre les partenaires bilatéraux et le gouvernement de la RDC.
Prenons par exemple la police, quelle est la matérialisation de cette coopération? Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de cette coopération entre notamment votre unité, la police nationale?
Pour la réforme du système de sécurité, notre coopération se base plutôt sur un appui stratégique de conseil. Par exemple, nous avons un officier d'UNPOL qui siège au sein du comité de suivi de réforme de la police qui appuie donc le secrétaire général, le général LLC, pour justement mener à bien la réforme de la police. Vous savez que le CSRP, c'est l'organe de coordination et de suivi et évaluation de la réforme de la police. Aussi, au niveau du commissariat général, le chef de la composante police, Moussa Diallo, a bien entendu des échanges hebdomadaires avec le coordinateur, le général Kamanga, pour justement veiller à ce que les efforts qu'apportent les bilatéraux se traduisent par une complémentarité afin d'éviter la duplication. En plus de l'appui que la MONUSCO fait dans ce sens stratégique, bien évidemment, il y a notre composante, enfin au niveau de la mission, tout ce qui est UNPOL, sous la direction du Police Commissioner Général Pascal Champion, qui appuie bien évidemment le plus gros sur le terrain, à l'Est, la PNC en termes de formation et d'équipement.
Oui, toute dernière question. La MONUSCO entame son retrait progressif de la RDC. Que pensez-vous de l'avenir de votre programme d'appui à cette réforme de la sécurité en République démocratique du Congo?
Alors vous savez bien que la MONUSCO a entamé ce qu'on appelle une exit strategy, donc la sortie de secours. Ceci, je ne suis pas en mesure de vous dire quand est-ce que la sortie de la MONUSCO aura lieu. Je peux vous dire que je pense que tous les staffs de la MONUSCO seront contents lorsque la mission fermera. Ça voudra dire que la présence d'une mission de coopération de la paix ne sera plus nécessaire en RDC. Bien évidemment, les rôles et les responsabilités que la MONUSCO a au jour d'aujourd'hui seront transférés à des agences des Nations Unies. Donc je pense que nous entamerons petit à petit une phase de développement et d'appui institutionnel beaucoup plus solide et beaucoup plus à long terme. Mais ce n'est pas de l'ordre du jour, ce n'est pas demain que cet appui va se réaliser.
Monsieur Louis, nous vous remercions.
Plus de 780 tonnes de vivres pour plus de 17 000 déplacés de guerre dans la collectivité de Walendubindi et ses environs à une soixantaine de kilomètres de Bunia en Ituri. Il s'agit d'une assistance signée PAM, Programme Alimentaire Mondial. La distribution de cette assistance a démarré mercredi dernier. Les détails avec Delvin Waisala.
Ces déplacés de guerre sont concentrés notamment à Guétimissio, Kamati et Sorodo. Ils sont restés plusieurs mois sans aucune assistance. Les PAM viennent de commencer la distribution de farine, de maïs et du soja, de l'huile végétale et du sel de cuisine, notamment sur les axes Guéti, Komanda. Moussa Jatraouré, chargé de programme au bureau du PAM.
Les camions sont déjà en train de partir avec les vivres, donc une distribution va commencer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30. L'objectif, c'est pouvoir assister aux besoins primaires de ces populations qui ont tous quitté, abandonner presque tout, qui n'ont pas accès aux champs.
Dans l'ère des santé de Bukiringi, il n'y a que des enfants de moins de 5 ans ainsi que des femmes enceintes et celles qui allaitent qui sont soignées gratuitement par l'ONG MEDER. Pour Jamawa, manager de santé de cette ONG, la prise en charge d'autres catégories sociales n'a pas été budgétisée, ce que confirme Dr Alain Abeba, médecin chef de zone de santé de Guéti.
Pour les santé de Sorodo et les santé de Bukiringi, mais dans ce protocole d'accord, nous ne savons pas comment prendre ces déplacés à charge. Quand les drafts se faisaient, il n'y a pas une rubrique où on va prendre en charge les déplacés.
Rappelons que le dur réalité des déplacés de Walendu Bindi a été expliqué à Martin Kobler, patron de la MONUSCO, qui a visité la zone lundi et mardi dernier. Bounia, Delve, Waïsala, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
L'appui au FRDC de la force de la MONUSCO dans les opérations militaires contre les FRPI est-il logistique ou offensif? Question posée à Martin Kobler mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire. Suivez la question et la réponse.
C'est Marc Bossoin-Dolé pour l'agence France Presse. La question c'est à M. Kobler. Vous venez de faire votre compte-rendu de votre visite en Ituri. J'aimerais savoir par rapport à l'opération conjointe contre les FRPI, est-ce que la MONUSCO a donné son soutien logistique comme d'habitude ou bien c'est vraiment un soutien offensif? Et aussi, on peut connaître les bilans de cette opération?
Le soutien de la MONUSCO dépasse le soutien logistique. Oui, c'est le soutien logistique, la nourriture et le transport et tout ça, mais c'est beaucoup plus. On planifie les opérations ensemble et c'est un combat ensemble. Ce sont nos hélicoptères attaque qui sont utilisés. Ce sont nos drones qui gagnent le renseignement pour les opérations, pour identifier les positions. Et puis, on lance des attaques avec les hélicoptères attaque chaque jour sur les positions. Ensemble avec les FRDC, c'est une action des FRDC, naturellement. On soutient les FRDC, mais ça dépasse la logistique. C'est une vraie opération conjointe, planifiée conjointement avec les FRDC contre les FRPI, et on a neutralisé entre 20 et 30% des FRPI dans les dernières 4 semaines ou 3 semaines maintenant. Et ça montre encore une fois que l'unité fait la force, parce que les FRDC, ils sont en charge du plan, mais aussi c'est votre pays, mais on peut vraiment leur donner tous les moyens que nous avons à notre disposition, comme les hélicoptères, notre transport. Le bilan, Félix me donne les chiffres ici, ça correspond avec ce que j'ai vu. Ce sont 35 tués, ce sont 52 blessés et ce sont plus de 36 rendus.
Magazine des Nations Unies, portrait d'usine.
Bonjour, je m'appelle Sylvie Sonanzanza, c'est mon post-nom. Marie est mère de 3 enfants. J'ai un bébé de 9 mois que j'allaite d'ailleurs. Parce que pour moi, l'allaitement maternel est très important. Ça permet de rendre fort mon enfant. J'aurai 40 ans cette année. Mon école primaire, je l'ai faite en une partie en Belgique, une partie ici en RDC, au groupe scolaire du Mouamba. Mes études secondaires également. Et mes études universitaires, je les ai faites à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIC, que vous connaissez sûrement. J'ai également une spécialisation en droit de l'homme à l'Université Henri Dunant en Suisse, sur le droit économique, socio et culturel. J'ai également un diplôme d'études approfondies à la chaire UNESCO ici à l'Université de Kinshasa en droit de l'homme. Mon parcours professionnel, je suis journaliste, comme vous l'avez compris, de formation. Pour le moment, je travaille à l'UNICEF en tant que spécialiste à la communication. Mon travail consiste à gérer un peu les relations avec la presse, tout ce qui est comités nationaux. Vous savez, l'UNICEF travaille avec des comités nationaux de certains pays qui soutiennent l'action de l'UNICEF. Mon travail consiste à avoir une étroite collaboration avec eux et aussi avec différents bailleurs. Quand j'arrive le matin, j'ai un agenda où j'écris toutes mes tâches la veille. Et je regarde mon agenda, je regarde ce que je dois faire pour éviter d'oublier d'accomplir certaines tâches. En ce qui concerne mon parcours professionnel, pendant d'ailleurs que j'étudiais, j'ai commencé à travailler dans un magazine qui s'appelait Écho de la Femme à Kinshasa, mais le magazine n'existe plus. Hein. Après Écho de la Femme, j'ai travaillé à Antenna, la chaîne de télévision Antenna. Après Antenna, j'ai rejoint l'équipe de Radio Capi. Donc je suis une ancienne de Radio Capi. De 2003 à 2005, j'ai travaillé au sein du journal Parler. Ensuite, le magazine Okapi Action. Donc après Radio Capi, j'ai rejoint le Fonds des Nations Unies pour la Population. J'ai passé 3 ans. Après le Fonds des Nations Unies pour la Population, donc UNFPA, j'ai rejoint l'UNICEF depuis 2007. Mais j'étais basée cette fois-là à Lubumbashi. 7 ans après, je reviens à Kinshasa, donc j'occupe le poste de spécialiste à la communication ici au niveau de Kinshasa. Bon, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup marcher. J'essaie de faire un effort, si pas tous les jours, chaque semaine, je fais de la marche. Et puis, j'aime aussi sauter à la corde. Oui, bon, tu sais, hein, on essaye toujours, même si ce n'est pas la grande forme, mais on essaye. J'aime beaucoup les makayabu en bonne mukongo, dans le poisson salé, j'aime beaucoup ça. Sur le plan musical, j'aime la bonne musique. J'ai pas de préférence particulière, mais j'aime la bonne musique. Congolaise, j'aime beaucoup la musique chrétienne. Moloto, oui, j'aime beaucoup les chansons de Moloto. J'aime les 60s, les 70s, les chansons françaises, ça j'en raffole. J'aime beaucoup ces chansons, les vieux tubes là, ça j'aime beaucoup. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, bon, je compte continuer à travailler au sein des Nations Unies, à servir mon pays à travers les Nations Unies, à travailler pour la cause des enfants et des femmes. Pourquoi pas servir l'UNICEF mais dans un autre pays. C'est un peu ça. Je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un rendez-vous à retenir la semaine prochaine dans votre agenda, le premier samedi du mois de juillet, qui tombe cette année le 4 juillet. C'est la Journée internationale des coopératives. C'est bien la fin de cette émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Ikoko sous la supervision de Julien Namuni. Honoré Missenga était en reportage et Thérèse Bassoubi à la présentation de votre émission avec le concours à la technique de Jean-Claude Siala. Vous pouvez retrouver ce numéro des magazines des Nations Unies sur le site de Radio Capi, radiocapi.net. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce magazine consacré aux agences des Nations Unies et à la MONUSCO. Excellente journée dominicale à tous.